Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+, les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la Demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité.
Bonjour à tous et merci d'écouter À la Demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à toutes les plateformes SVOD. Je suis Émilie Meunier et cette semaine, on va parler d'une série américaine qui pour beaucoup est l'une des meilleures sorties depuis bien longtemps. Il s'agit de Succession, dont la saison 3 qui compte 9 épisodes est diffusée sur OCS depuis ce 18 octobre. Et ce retour très attendu du clan Roy, famille à la fortune colossale, famille célèbre, cruelle, mais surtout jamais d'accord, a fait bien des heureux, dont deux présents ici même, les journalistes Philippe Husson et Marc Arlin, deux fans de la première heure de cette série sur des ultra-riches à la tête d'un empire médiatique. Salut les gars.
Salut Émilie.
Salut Émilie, salut tout le monde.
En fin d'épisode, c'est Guillaume de Tonquédec à l'affiche de la série Germinal sur Salto et sur France 2 qui vous révélera son dernier coup de cœur SVOD. Imaginez, vous avez bâti un empire en partant de rien. Vous êtes le boss d'un des plus grands conglomérats de médias et de divertissement au monde et une crise cardiaque vous oblige à songer à votre succession. Le hic, c'est qu'aucun de vos enfants n'a grâce à vos yeux. Voilà le pitch de départ de la série multi-récompensée Succession, signée J.C. Armstrong et dont la troisième saison, disponible sur OCS en France, s'est faite désirer à cause de la crise sanitaire. Mais maintenant que les fans ont enfin le troisième chapitre entre les mains, cette fiction en mode dynastie, il faut le dire, est-elle toujours la meilleure à leurs yeux ? Alors je vais commencer par énerver mes deux chers invités en confessant n'avoir pas tenu bien longtemps devant cette série et surtout devant les membres de cette famille Roy, tous plus tête à claque les uns que les autres. Bon maintenant, c'est à vous les gars, pourquoi Succession est la meilleure série du moment ?
C'est un peu compliqué de résumer Succession, mais il y a plein de choses qui sont vraiment exceptionnelles dans cette série. Le premier aspect pour moi, c'est le côté dramaturgique de la série, avec l'ambiance qui est mise en place, qui est toujours noire, même si t'es dans un décor grandiose. C'est assez incroyable à suivre, et en même temps, ça te paraît très loin de ton univers à toi, de ton quotidien, et en même temps, t'adores le regarder et un peu aussi le rêver. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la construction des personnages, la manière dont ils sont à la fois des gens très détestables, et en même temps, en une scène, tu peux te dire « Ah, quand même, il est pas si horrible ce personnage, ou il a peut-être un petit fond de gentillesse que j'ai envie de sauver. »
Moi, c'est ça que j'ai pas vu. J'ai pas vu le fond humain.
Mais tu n'as pas assez regardé.
Je n'ai pas assez regardé, je confesse.
Et surtout, c'est le côté aussi plaisir coupable à regarder une famille qui se déchire, qui se déteste pour juste une entreprise, certes une multinationale très riche, mais tu te dis quand même détruire ta famille pour ça, est-ce que ça en vaut la peine ?
C'est vrai que c'est pas facile de résumer Succession, mais je vais essayer quand même. Pour moi, c'est la rencontre parfaite entre un soap opéra, tu as cité Dynasty, Emily, et Shakespeare. C'est-à-dire qu'il y a des histoires de famille, il y a des coups bas, il y a des retournements de situation, et même des histoires d'amour contrariées, comme dans un bon vieux soap des familles, type Dallas ou Dynasty. Mais aussi, il y a clairement des influences de Shakespeare. L'histoire du patriarche qui se retire du pouvoir, ça fait songer évidemment au roi Lear. Le personnage de Kendall peut faire penser à Hamlet. Mais au-delà de ces comparaisons, ce qui en fait la meilleure série du moment pour moi, c'est la qualité des dialogues et la qualité de l'interprétation. C'est férocement drôle, ça va à une vitesse parfois étourdissante. Et en même temps, c'est une série qui sait utiliser aussi les silences, qui sait même utiliser les moments de malaise, et il y en a beaucoup, pour atteindre justement quelque chose de la vérité des personnages.
Et puis, si je peux me permettre, c'est le côté aussi cliffhanger à chaque fin d'épisode, où tu te dis pendant tout l'épisode, oh, Kendall, le fils, il est vraiment dans la merde, et en fait, à la fin de l'épisode, tu te dis, ah, mais non, l'épisode prochain, il va être incroyable parce qu'il va réussir à se sauver. Et à chaque fois, t'es tenu en haleine pour l'épisode suivant.
Donc, de nombreux rebondissements, en fait.
Ouais, c'est ça. Et puis, comme disait Philippe, ce qui continue d'accrocher et qui fait que tu en continues de regarder, c'est que malgré le côté antipathique des personnages, c'est justement de voir jusqu'où ils peuvent aller, en fait, et jusqu'où ils vont t'embarquer avec eux.
Bon, et tiens, j'ai vu passer une petite tête que je connais, une voix bien connue du podcast, Stéphanie Fuseau. Et ça m'intéresse aussi d'avoir l'avis d'une meuf sur cette série qui dépeint quand même, il faut le dire, un univers très masculin avec des rapports de force.
Oui, coucou, j'ai entendu parler de Succession, donc évidemment, je suis venue passer ma petite tête, comme tu dis. En fait, pas du tout. On a peut avoir cette impression-là au départ parce que les personnages d'hommes sont plus développés au tout début dans la saison 1. Mais les femmes ont des rôles très forts, sont très bien écrites. Donc, je voulais juste dire que c'était le moment en France de se mettre à Succession. Faut y aller, faut regarder, c'est super. Et ce qui est vraiment génial, c'est que justement, ils sont tous détestables. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est merveilleux, en fait. Il y en a aucun à rattraper. Et ça, c'est jouissif, quoi.
Merci. Bon, à vous écouter, je vais peut-être lui donner une seconde chance à cette série et à cette famille d'ailleurs. Et comme on dit, dans les familles, il y a toujours un petit préféré, hein. Alors c'est lequel le vôtre ?
Alors c'est difficile de choisir un seul personnage, hein, parce que l'aspect choral de la série en fait aussi sa force. Mais moi j'avoue que je me délecte du personnage de Roman, donc c'est le petit dernier de la fratrie. C'est le plus immature, c'est le plus cynique, ce qui veut dire beaucoup dans cette famille. Mais c'est aussi, moi, je trouve, le plus drôle. Il pousse le curseur toujours plus loin et c'est pour ça qu'on l'aime. Et pour moi, il a souvent les meilleures répliques.
Et c'est le frère bien connu de quelqu'un, non ?
Et voilà, ouais. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il est joué par Kieran Culkin, qui est lui-même le dernier d'une fratrie d'acteurs, dont le plus célèbre reste Macaulay Culkin.
Ah.
Voilà, de Maman, j'ai raté l'avion. Donc, ouais, Roman. Et puis, je voulais quand même citer aussi le personnage de Tom, donc le gendre de Logan Roy. Qui est un personnage à la fois détestable et en même temps complètement à côté de la plaque, qui le rend d'autant plus drôle et complètement décalé par rapport aux autres.
C'est vrai qu'il est incroyable ce personnage, et en plus tu te dis qu'il est bête et à côté de la plaque, mais en même temps t'as quand même l'impression qu'il a des petites idées derrière la tête et qu'il est peut-être pas si naïf que ça. De mon côté, j'ai eu aussi du mal à choisir entre deux personnages. J'ai un petit faible quand même pour Logan, le patriarche de la famille, qui est quand même un génie, un mania de la presse, qui a créé une entreprise incroyable.
Qui est parti de rien,
et qui a toujours des combines ignobles pour faire à la fois du mal à sa famille et à ses ennemis. Et en même temps, tu te dis, il est vraiment détestable ce mec, et de temps en temps, dans une scène, tu vois qu'il est quand même pas complètement dénué d'émotions, qu'il se dit, oh là là, quand même, je vais être un peu loin, peut-être que je suis dur avec mes enfants. Il a quand même un côté humain qui le sauve. Et j'aime beaucoup aussi son fils, Kendall, qui est son grand ennemi dans la saison 3 notamment, qui est peut-être le seul à sauver dans cette famille, qui a un côté un peu naïf, mais tu te dis, est-ce que c'est pas le seul qui a un peu des valeurs, alors après des valeurs selon les Roy et leur vision de l'économie et de l'humanisme dans le monde, mais tu te dis quand même, il est pas si horrible ce garçon, donc peut-être que c'est le moins pire de tous.
Et la question qui brûle les lèvres aussi en regardant cette série, c'est est-ce qu'elle est inspirée de personnages réels ?
Alors la référence évidente de la série, c'est Rupert Murdoch, voilà, grand mania des médias, ancien patron de la Fox, avant qu'elle ne soit rachetée par Disney, détenteur de dizaines de journaux, notamment le tabloïd britannique The Sun par exemple. Donc Rupert Murdoch, il a 90 ans aujourd'hui, il est donc évidemment un peu retiré des affaires, et ce sont ses héritiers qui gèrent l'empire médiatique de papa. Et la référence est tellement assumée qu'il y a un épisode de la première saison de Succession où le clan Roy se livre à une sorte de thérapie familiale un peu bizarre. Et en fait, elle est inspirée d'une vraie retraite thérapeutique qu'ont effectué les Murdoch en Australie. Donc voilà, il y a clairement un petit clin d'œil là-dessus. Mais il y a aussi une autre inspiration, je pense que Philippe est d'accord, c'est sur Donald Trump.
Oui, je suis d'accord avec Marc, la vision évidente, c'est Rupert Murdoch. Mais en même temps, je pense que Trump, il est aussi une grande source d'inspiration pour la série. On voit notamment dans le personnage de Kendall Roy, qui fait beaucoup penser à son fils, y compris d'ailleurs physiquement, comme tu disais.
Oui, y compris physiquement, c'est ça qui est dingue.
Et voilà, et je pense que même au-delà de Trump et Murdoch, il y a sûrement d'autres sources d'inspiration dans les manias de la presse ou dans des grands PDG d'entreprises américaines qu'on connaît pas forcément. Mais je pense pas qu'ils soient inspirés que d'une seule et même famille.
Bon, et sans spoiler, car on n'est pas là pour ça, est-ce que cette troisième saison de Succession vous a autant plu que les premières, et surtout, stop ou encore ?
Alors, la bonne nouvelle, c'est que HBO a déjà annoncé une saison 4. Ça laisse donc présager d'une fin de saison assez palpitante et sûrement un cliffhanger aussi incroyable que celui qui a clos la saison 2. Mais pour l'instant, des épisodes que j'ai vus, elles commencent très fort, avec des épisodes très bien construits, une ambiance qui est toujours aussi palpitante et qui te plonge directement dans l'intrigue. Et pour le coup, je regarde aussi Morning Show, qui est une série de Apple TV qui a repris il y a quelques semaines. Et on finissait aussi la saison 1 sur un cliffhanger de ouf. Et on a repris la saison 2 avec... oh là là, qu'est-ce que c'est long en fait. Il y a des ellipses tout le temps. On a repris la saison 2 un peu en arrière et puis après on retourne en avant. On a du mal à suivre. Alors que là, Succession, tu reprends directement là où tu t'es arrêté. Tu retournes directement dans l'intrigue et t'es à fond dedans, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai été assez bluffé effectivement par le premier épisode de la troisième saison parce que tous les enjeux sont posés à nouveau avec une virtuosité et une rapidité assez incroyables. Et ensuite, de ce que j'ai vu, car j'ai pas encore vu toute la saison, la série creuse vraiment le sillon du duel entre Logan, le père, et Kendall, le fils. Quitte à la limite à un peu phagocyter tout le reste, quoi. C'est vraiment, tout le monde doit se positionner par rapport à l'un ou l'autre. Et après, les dialogues sont toujours là, le plaisir des dialogues sont toujours là, les coups bas, les conspirations, tout ce qu'on aime, tout ce qui a été jouissif dans les deux premières saisons est toujours présent. Ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'ils ont été un peu limités par la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup tourné à New York et dans des huis clos, enfin dans les bureaux, etc. Et j'ai l'impression qu'ils utilisent ça pour justement montrer autre chose des personnages. Ça donne un côté plus étouffant à la limite à certains épisodes, mais ça peut être intéressant justement sur toute la saison d'avoir utilisé cette contrainte pour sortir quelque chose d'autre de la série.
Mais ça les a pas empêchés aussi d'avoir quelques guests dans cette nouvelle saison.
Oui, il y a Adrien Brody qui arrive à partir de l'épisode 4 de la saison 3. Alors je vais pas vous dévoiler le rôle parce que c'est plus intéressant de le découvrir quand on regarde la série. Mais ouais, Adrien Brody donc qui fait un guest important dans la saison 3 et qui va continuer ensuite au fil de la saison.
Pour tous les amoureux de Succession qui voudraient s'ouvrir à d'autres clans, Marc, Philippe, vous aviez d'autres recommandations. Et on commence avec la série The White Lotus, disponible sur OCS également, avec une bande d'ultra-riches, tiens, névrosés aussi.
Oui, alors il faut préciser que The White Lotus, c'est le nom de l'hôtel de luxe de la série. À Hawaï. Et comme dans Succession, je trouve qu'il y a ce mélange d'humour grinçant, de satire d'une certaine Amérique blanche et riche, mais aussi il y a une vraie mise à nu des émotions, c'est-à-dire qu'en fait ces lieux de vacances où ces gens devraient s'amuser et oublier tous leurs problèmes deviennent finalement le pire, c'est-à-dire vraiment le réceptacle de toutes leurs névroses, de tout ce qu'ils ont gardé en eux pendant des années. Et il y a aussi une vraie réflexion sur les différences de classe sociale. Du coup, je trouve que ça donne une richesse à la série vraiment super. Alors pour l'instant, c'est seulement 6 épisodes. Il y a une saison 2 qui est déjà commandée. Donc voilà, je conseille fortement The White Lotus, notamment pour les fans de Succession.
Et Philippe, tu voulais parler de ton côté de la série The Young Pop à voir sur Canal+.
Qu'avons-nous oublié ?
À partir de ce jour, tu n'es plus Lenny Bellardo.
Nous vous avons oublié, vous !
À partir de ce jour, tu es le pape Pie XIII.
Je dois d'abord boire mon coca cherry zéro.
C'est une mini-série qui est portée par Jude Law. Il incarne un cardinal de 47 ans qui est élu pape contre toute attente. On pense pouvoir faire de lui un pantin. On pense aussi qu'il va être peut-être plus moderne, qu'il va incarner le renouveau de la papauté. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et il est bien plus fort qu'on ne le pense aussi. Donc si vous aimez les manigances, les jeux de pouvoir, les intrigues de couloir en plein milieu du Vatican, vous allez adorer. Et c'est très bien joué, c'est très bien filmé. Et surtout, la scène d'ouverture est vraiment mémorable avec un Jude Law qui vient d'être élu pape et qui arrive devant la foule de fidèles sur la place Saint-Pierre de Rome. C'est mémorable.
Pour résumer, si vous aimez les jeux de pouvoir et les riches névrosés, on vous conseille de ne pas manquer la saison 3 de Succession sur OCS, mais aussi d'enchaîner sur la plateforme avec The White Lotus, puis de jeter un œil à la série The Young Pop sur Canal+. Place maintenant à notre guest, l'acteur Guillaume de Tonquédec, star de Fais pas ci, fais pas ça, récemment vu dans Une affaire française et actuellement à l'affiche de la série Germinal, vous parle de son dernier coup de cœur sur Netflix pour la série documentaire Grégory.
Qui est formidable, qui fait reparler les protagonistes de l'époque, sauf la famille. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'au-delà du fait divers, et là tous ceux qui ont touché de près ou de loin ce fait divers, leur vie a changé. En tout cas, elle est toujours marquée parce que l'enquête n'est pas terminée. On n'a toujours pas trouvé le ou les coupables. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, quoi. Puis c'était un très beau témoignage aussi sur les excès du journalisme, sur ce qu'un être humain est capable de faire aussi, les avocats, les batailles qu'il y a eu autour de ce petit fait divers absolument terrible. Parce que le mobile est incroyable. Comment peut-on tuer un enfant par haine de son père? C'est ça le mobile. Donc ça, la série parle très bien de ça et on s'aperçoit que c'est d'abord et avant tout une histoire d'amour, c'est celle des Villemain, qui sont toujours ensemble à l'heure qu'il est, qui ont eu d'autres enfants, qui ont fondé une famille et qui continuent à chercher la vérité. Ça m'a bouleversé, quoi.
Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande. Merci Philippe, merci Marc, c'était cool de vous avoir dans cet épisode.
Merci, c'était cool d'être ici.
Merci Emilie, on aurait pu parler de Succession pendant encore bien plus longtemps, mais ce sera une prochaine fois, n'est-ce pas ?
Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.